Voilà, donc je vais vous parler un petit peu justement de méthodes d'analyse agronomique, et plus particulièrement celles utilisées en Europe, ou celles que j'ai pu au moins recenser. Et un petit peu voir aussi, donc le principe c'est de voir aussi un petit peu leur fonctionnement, et puis ce qui a été normalisé, ce qui n'est pas encore normalisé, ce qui serait possible de normaliser ou pas, et vers quelles tendances on peut penser aller. Donc un premier constat sur la méthode d'analyse de terre. Donc ce sont des méthodes qui sont quand même assez ciblées, soit un groupe d'éléments, soit un élément, c'est-à-dire qu'on va avoir une méthode pour les oligo-éléments, une méthode pour les cations, etc., une méthode ou plusieurs pour le phosphore. Donc on a quand même beaucoup de méthodes. C'est des méthodes qui sont assez figées dans le temps parce qu'elles datent des années entre 50, 60, 70, avec des calages agronomiques qui ont été faits. Et d'où un petit peu le figeage des méthodes, parce que on a du mal à faire évoluer des méthodes en sachant que derrière, il va falloir retravailler sur le calage agronomique ou trouver des moyens pour recaler ces méthodes. Donc, ce qui entraîne quand même une certaine inertie de ces méthodes. Notamment, elles ne sont pas très en phase avec les évolutions des développements technologiques analytiques qui ont lieu ces 20 dernières années, et en particulier tout ce qui est analyse multi-élémentaire, qui permettrait de faire tout un tas d'éléments. Mais si on a une méthode pour un ou un petit groupe d'éléments, ces méthodes-là deviennent un petit peu, pourraient être beaucoup plus rentables. Et puis, on est également dans une phase de normalisation européenne. Et on s'aperçoit que pratiquement chaque pays, également pour des questions historiques, a développé ses méthodes agronomiques. Et puis, on a pratiquement une méthode par pays ou par groupe de pays historiquement, anglo-saxons, pays de l'Est, pays latins, etc. Donc tout ça, ça bloque un petit peu un échange européen sur ces méthodes. Ces méthodes, donc je vous présenterai à la fois des méthodes qui seront des méthodes d'analyse totale, donc ce qu'ils trouvent totalement dans le sol, et des méthodes d'analyse partielle, donc ce qui va être le but, ça va de voir quelle partie de l'élément peut nous intéresser pour soit des cultures ou bien un impact écologique, etc. Donc il y a un petit point sur la normalisation européenne actuellement. Donc elle concerne principalement... Donc il y a un programme européen qui s'est mis en place il y a une dizaine d'années, qui avait pour ambition, donc on appelait le programme horizontal, qui avait pour ambition de sortir des normes qui soient applicables à plusieurs matrices en même temps, de façon à simplifier un petit peu les analyses et la production des normes. Donc ces méthodes ont été développées dans le but de cadrer sur des méthodes sol, boue et biodéchets. Donc c'est ce qu'on a appelé le programme horizontal. Ça fait une dizaine d'années qu'il a été mis en place et les premières normes sont sorties l'an dernier. Et ce sont essentiellement des normes qui parlent de conservation totale, on y reviendra tout à l'heure. Et donc la seule entorse, c'est pour le pH. Donc là, il y a une proposition de pH à la fois qui peut s'appliquer sur les boues, sur les biodéchets, sur les sols. Sinon, pour la plupart des méthodes qui sont spécifiquement agronomiques, la normalisation actuelle, c'est plutôt au sein de l'ISO, donc au niveau international, au sein du groupe TC190 qui est sur la qualité des sols. Et il y a également un groupe analyse de sol au CEN TC345, mais qui en fait est pour l'instant un groupe miroir du groupe ISO, c'est-à-dire qui reprend directement les normes qui sont produites par l'ISO et qui les passe au niveau CEN. Donc pour l'instant, il n'y a pas de développement spécifique au niveau du CEN 345. Donc un petit mot de l'avenir de cette normalisation européenne. Donc le programme horizontal a permis de sortir des normes qui sont applicables donc, aux trois matrices, boue, biodéchets, sol. Et actuellement, la réflexion, c'est de prolonger ce programme horizontal et de l'étendre à nouveau à de nouvelles matrices. Donc on parle de beaucoup de choses, on parle des matières fertilisantes, on parle des produits de construction, on parle de plein de matériaux. Et l'idée, donc, c'est ce qui est appelé pour l'instant l'approche boulevard, c'est-à-dire d'avoir une approche à un niveau analytique où on mélangerait toutes les matrices, et après avoir une approche plus verticale pour des méthodes spécifiques, donc ce qui pourrait être le cas par exemple pour les sols, parce qu'on conserve quand même des méthodes bien spécifiques pour nos besoins agronomiques. Donc ça, c'est vraiment au tout début, l'approche boulevard, et c'est encore très débattu. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore de sortie officielle, et c'est toujours à l'état de réflexion. Alors un petit mot sur les méthodes d'extraction totale. Donc sur des grandeurs bien définies, puisqu'on veut du total, donc on n'a pas à se poser de questions, il va falloir attaquer ou minéraliser un sol en son total. C'est vrai que c'est des méthodes qui peuvent s'appliquer à plusieurs matrices, puisqu'on n'a pas une barrière de matrice, on peut aussi bien attaquer du total dans une boue que dans un sol, donc c'est ce qui a permis la normalisation horizontale. On a une petite nuance, c'est-à-dire qu'on parle parfois de vrai total ou de presque total, on verra après. du fait qu'elles sont bien définies, on va pouvoir les normaliser, et elles sont utilisées donc pour caractériser les éléments majeurs et la matière organique dans les sols. Donc au niveau de la matière organique, la situation elle est quand même assez bien clarifiée au niveau européen. En gros, il subsiste deux types de méthodes pour le carbone. Une méthode avec une minéralisation oxydante, donc qui est en France et dans pas mal de pays, est l'oxydation sulfochromique méthode de Hahn. On a aussi une variante avec la méthode de Wackley-Black. La méthode de Hahn est normalisée à l'ISO. Elle n'a pas été reprise dans les travaux du CNTC 400 pour les méthodes horizontales, notamment à cause du fait de l'utilisation de mélange sulfochromique. Donc pour des raisons hygiène-sécurité, les pays d'Europe du Nord sont farouchement opposés à l'utilisation de ces mélanges. Et donc on obtient le paramètre carbone organique. La deuxième variante qu'on trouve en Europe, donc c'est la combustion sèche, donc une méthode qui est maintenant bien établie dans les labos. Le problème pour le carbone, c'est qu'on a une mesure du carbone total. Donc il va falloir calculer le carbone organique en déduisant le carbone minéral. Donc ça demande une manip supplémentaire. Or, sur la plupart des types de sols, on peut s'en sortir en mesurant le calcaire avec la bonne vieille méthode des calcimètres. Par contre, sur des sols qui deviennent fortement calcaires, on a un problème de précision dans la méthode. À ce moment-là, il faut passer à une méthode de décarbonatation avant la méthode de combustion sèche, ce qui complique pas mal les choses. Donc cette méthode est normalisée à la fois à l'ISO, donc spécifique en sol, et maintenant elle est également normalisée au niveau horizontal, donc pour les trois matrices, boue, sol et biodéchets. En ce qui concerne l'azote, donc on va retrouver la méthode combustion sèche et la méthode Geldal, donc il subsiste également deux méthodes. La méthode combustion sèche, à ma connaissance, ne pose pas de problème, puisque là on n'a plus le problème des carbonates, hein. Donc elle est pas mal du tout. La méthode Geldal, elle marche bien, mais bon, elle est un petit peu. Il y a toute l'utilisation d'acide sulfurique qui pose parfois des problèmes en laboratoire, des problèmes d'hygiène sécurité. Donc pour l'instant, les deux méthodes subsistent. Et la combustion sèche est intéressante si on peut la coupler avec la combustion sèche du carbone. Donc c'est aussi une façon de rentabiliser les choses. Toujours dans l'aspect total, donc en ce qui concerne les éléments majeurs, les éléments minéraux. Donc on a en gros deux types de méthodes. Donc, ils sont normalisés. Alors, la méthode pour le vrai total, où il va falloir utiliser absolument du HF, si on veut avoir du vrai total dans les sols, ou faire de la fusion alcaline pour doser certains éléments majeurs. Alors, ces méthodes-là sont normalisées au niveau de l'ISO et n'ont pas été reprises au niveau du CNTC 400, toujours pour des problèmes d'hygiène sécurité, notamment l'utilisation du HF n'est pas très bien vue au niveau européen. La fusion alcaline, donc elle reste, à ma connaissance, la seule méthode pour mesurer les teneurs en silicium et titane dans les sols. Alors, c'est assez peu usité, c'est assez peu demandé, mais ça peut avoir son intérêt quand même d'avoir le fond géochimique du silicium dans un sol. Et puis ensuite, ça a été développé donc, des méthodes presque totales ou pseudo-totales, on parle aussi. Donc, ils sont des méthodes qui n'utilisent pas le HF, donc qui sont un petit peu plus faciles d'usage pour les labos. Donc, ils sont la méthode Oregal, donc HCl-HNO3, et une méthode acide nitrique seul en micro-ondes. Donc, ces méthodes-là ont été normalisées au niveau CEN 400, donc dans le programme horizontal. La méthode Oregal est utilisée pas mal un petit peu partout en Europe. La méthode acide nitrique est utilisée essentiellement en Angleterre pour l'instant. Et là aussi, on parle de problèmes hygiène-sécurité avec la méthode Oregal. À cause de la présence de composés chloronitrosyls qui sont très, très toxiques. Donc l'idée des Anglais, c'est également de pousser la méthode acide nitrique. Alors évidemment, on n'obtient pas les mêmes concentrations, on n'obtient pas du vrai total. Donc ces méthodes-là s'appliquent très bien aux ETM parce qu'on est à peu près dans la même gamme de concentration. Par contre, dès qu'on va vouloir doser des éléments majeurs, ça va être assez délicat d'aller voir un pédologue avec des teneurs obtenues avec des méthodes presque total. On est quand même souvent assez loin de la réalité pour des éléments comme le potassium, l'aluminium, le sodium, etc. Voilà pour les méthodes totales. Maintenant, je vais vous parler d'extraction partielle. Donc là, la situation se complique parce qu'elles font appel à des notions de disponibilité d'un élément, donc soit vis-à-vis d'une plante, d'un système écologique ou d'un ensemble de plantes ou d'un besoin agronomique. Donc, ce sont des grandeurs pas faciles à définir parce que ce ne sont pas des grandeurs définies en elles-mêmes. C'est toujours un petit peu on essaye de reproduire ce qui se passe au champ, mais on n'a pas accès à une fonction du sol particulière. Donc elles ont été développées au cours du temps, et souvent elles ont été développées pour un élément ou pour un groupe d'éléments. Ce qui fait qu'on obtient une grande diversité de méthodes. Donc je l'ai dit tout à l'heure, une méthode pour les cations échangeables, une méthode pour les oligo-éléments, etc., une méthode pour le bore, pour le phosphore. Et en plus, elles ont été développées parallèlement dans les différents pays européens. Donc là-dessus, on rajoute une couche européenne, c'est-à-dire que les Anglais ont développé leur méthode, les pays de l'Est leur méthode, etc. Donc, ce qui fait qu'on obtient une très grande diversité de méthodes. Et donc, pour y voir un peu plus clair, j'ai essayé de redéfinir des types de méthodes en fonction de leur fonctionnement par rapport au sol. Donc, en gros, j'ai identifié trois types. Un type qu'on peut appeler soluble, donc ce qui correspond à tout ce qui est méthode qui vont mettre en solution des éléments du sol de façon par la solubilité de celui-là. Donc, on va utiliser essentiellement de l'eau. Et là-dessus, on a coutume de mesurer le pH, donc le fameux pHO dont on parlait tout à l'heure. On mesure parfois des cations solubles, du phosphore, la conductivité électrique. Un deuxième type de méthode très utilisée, donc c'est tout ce qui va, on va mettre en œuvre tout ce qui est lié au complexe argilo-humique en faisant des échanges. Donc on va utiliser des molécules qui contiennent un ion qui va s'échanger avec les différents cations du sol qui sont échangeables. On va pouvoir accéder à différents types de grandeur, j'y reviendrai après, donc c'est ce que j'appelle le type 2. Et un troisième type, donc, qui est pas mal utilisé donc en France pour certains éléments et à l'étranger en Europe, même pour des éléments comme les cations ou le phosphore, qui consiste à mettre non seulement un échangeur, mais également une molécule complexante qui va pouvoir aller complexer des éléments dans le sol et qui, du coup, va mettre en solution des éléments qui sont beaucoup plus séquestrés dans le sol, notamment qui peuvent être absorbés ou précipités sur des oxydroxydes du sol, de fer aluminium. Ça, c'est ce que j'ai appelé le type 3. Donc, je vais revenir rapidement sur le type 1. Donc, ce sont les extractions à l'eau. Donc, on va mesurer le pH, le phosphore, les cations, les solubles eau. C'est des méthodes qui sont peu utilisées en dehors des terres de maraîchage, donc pour des problèmes vraiment spécifiques, parce que derrière, il y a des problèmes de séparation de phase. Effectivement, quand on met de l'eau déminéralisée sur un sol, selon son taux d'argile, on va pouvoir disperser ou pas les argiles. Si on se met à disperser des argiles, la séparation des phases liquide-solide devient très complexe. Et du coup, on ne sait plus trop ce qu'on mesure. On peut mesurer, par exemple, des argiles en solution. Avec un ICP, on va tout mesurer. Donc, on n'est pas du tout sûr d'avoir du vrai soluble. Alors, certains proposent de rajouter un petit peu de CaCl2 de l'ordre de 1 millimol, donc pour éviter les échanges, mais quand même permettre de floculer les argiles. Bon, ces méthodes sont assez peu utilisées, hormis le pHO, donc qui est le grand vainqueur en France pour la détermination du pH. Ensuite, les méthodes de type 2, donc ce que j'appelais type 2, c'est tout ce qui va être reconnu pour nous comme échangeable. Donc là, le principe, c'est de faire un échange entre un ion d'une solution d'extraction et les ions du sol qui sont disponibles. Avec cette méthode-là, on peut mesurer la CEC, la capacité d'échange cationique du sol, avec des petites variantes, donc soit au pH du sol, soit en pH tamponné, donc avec notamment la méthode française qui est l'acétate d'ammonium tamponné à pH 7. On peut mesurer également les cations échangeables, donc là aussi ça va être tamponné ou pas tamponné. On peut mesurer du phosphore, alors les milieux d'extraction les plus utilisés en Europe, ça va être du CaCl2, l'oxalate d'ammonium pour la méthode Jorah-Ebert par exemple, l'acétate d'ammonium tamponné à pH 7, la cobaltiexamine, bon, qui est une méthode qui permet de travailler au pH du sol. Et puis d'autres milieux d'extraction donc, que j'ai mis un petit peu en vrac, donc du chlorure de barium, du chlorure d'ammonium, donc là qui sont des ions échangeurs qui travaillent plutôt à un pH proche de celui du sol et qui sont pas mal utilisés, mais plutôt pour des analyses en milieu forestier, alors, plutôt à l'usage de solacine. Donc ça, c'est utilisé dans les grands programmes européens, par exemple le BACL2 dans les grands programmes européens de suivi de qualité des sols forestiers. La type 3, donc là, ça devient un peu plus méchant. Donc, c'est des méthodes, bien sûr, il y aura de l'échangeable, mais on va rajouter un agent complexant, donc une molécule de DTA, par exemple, ou voir, on va acidifier le milieu et on va le complexer. Donc ça va être utilisé pour les oligo-éléments. Donc, en France, c'est ce qu'on utilise avec la méthode de DTA tamponnée à pH 7 avec l'acétate d'ammonium. Donc là, on est à pH 7. On utilise aussi parfois le DTPA qui lui est tamponné à 8,2. Bon, je je ne sais pas pourquoi. Ensuite, les Anglais ont tendance à utiliser la méthode Morgan, qui, elle, c'est une méthode en tampon acide acétique, acétate. Les Allemands, le lactate de calcium en milieu acétique. Et puis après, toute une flopée de pays de l'Est, donc la Tchéquie, la Pologne, ont tendance à utiliser une méthode Mélic 3, dont je reparlerai tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est assez varié. Et il y a encore d'autres méthodes que je n'ai pas citées, mais par exemple, qui est utilisée pour les ETM. Donc là, on va utiliser une méthode de DTA, mais une variante de la méthode française tamponnée à pH7. On ne va pas tamponner, justement, pour ne pas être en condition de carence, mais pouvoir détecter des conditions de risque potentiel de pollution. Donc la situation est assez complexe. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il existe des équivalences entre toutes ces méthodes ? Donc entre des méthodes de même type, par exemple ici sur l'exemple de la CEC mesurée au pH du sol et mesurée à pH 7, il est possible de calculer des équivalences. Donc ça c'est un travail qui a été fait par Henri Sieseski au laboratoire. Ou en faisant intervenir le pH du sol et le taux de matière organique du sol, on arrive à modéliser un petit peu et de passer de la CEC à pH 7 à la CEC au pH du sol. Ça, c'était un exemple qui marchait pas mal. Ensuite, il y a eu d'autres essais pour voir un petit peu, bah, par exemple, dans le cas du phosphore, est-ce qu'on peut imaginer corréler une teneur en phosphore Jaurès-Ebert, une teneur en phosphore Olsen. Donc ça, ça a pas mal été fait, pas mal d'essais qui ont été faits. Là, bon, en triturant un peu les données, en tenant compte du type de sol, en essayant de regrouper, on arrive à avoir des tendances. Bon, après, ça reste des tendances, hein, parce que c'est quand même des méthodes assez différentes. Et puis, après, quand on se pose la question, est-ce qu'on peut corréler ou est-ce qu'on peut mettre en forme des méthodes de type différent, c'est-à-dire, par exemple, si j'ai une méthode de type 3 où je fais une extraction acido-complexante, est-ce que je peux mettre ces résultats en relief avec une méthode simplement échangeable ? Ça devient beaucoup plus complexe parce qu'on ne joue pas sur la même fonctionnalité. Il faut, par exemple, travailler par type de sol homogène ou faire intervenir plus de paramètres et là, utiliser des outils statistiques un peu plus puissants, notamment tout ce qui est chimiométrie. Donc ça aussi, c'est en train de se développer. On essaye d'intégrer d'autres paramètres du sol et puis faire des modèles un petit peu chimiométriques pour essayer de faire coïncider ces méthodes. Alors, quel serait l'intérêt de faire l'équivalence de ces méthodes ? Ça serait d'aller vers une méthode unique. Donc, c'est un petit peu le travail qui a été fait pas mal en Tchéquie pour essayer d'avoir une méthode qui permette d'apprécier à sa juste valeur en un seul run le maximum d'éléments. Donc, effectivement, on a des outils maintenant multi-élémentaires, ICP-AES, ICP-MS, etc., qui permettent de mesurer un grand nombre d'éléments en même temps. Et si on arrive à avoir une méthode qui permette de faire ça, bah c'est un gain de temps et un coût réduit. Ça peut être aussi une occasion de développer une harmonisation plus poussée au niveau européen. Par contre, il faut une stratégie de validation donc pour ces méthodes. Donc soit un recalage agronomique, ce qui est toujours très complexe, soit un calage méthode à méthode, c'est-à-dire ancienne méthode, nouvelle méthode. Et c'est un petit peu ce qui a été fait au niveau de la Tchéquie pour le Mélic 3, la méthode Mélic 3. Ou en Hollande également pour la méthode CACL2. Donc l'idée, c'est de reprendre les méthodes, les anciennes méthodes, les nouvelles, essayer de décaler. Alors ça peut être décalage simplement par type de sol ou par région agricole. Ça peut être assez limité au niveau de ces calages. En Tchéquie, c'est ce qu'ils ont fait. Je crois qu'ils ont travaillé par province et par type de sol. Et apparemment, ils en sont contents. Donc, par exemple, juste pour vous mettre en appétit, donc, la méthode Mélic 3... C'est une méthode où on va mélanger de l'acide acétique, du nitrate d'ammonium, du fluorure d'ammonium, de l'EDTA. Et alors l'agitation dure 5 minutes, dans un rapport 1 sur 10, filtration, et puis on va analyser en un seul run les oligo-éléments, les cations, le bore, le phosphore, et éventuellement des éléments traces. Donc vraiment, là, la rapidité de la méthode elle est assez intéressante. Une autre approche qui a été faite pour essayer justement de faire évoluer ces méthodes vers des méthodes beaucoup plus rapides, c'est l'utilisation de la spectrométrie proche infrarouge. Donc, à partir de spectre proche infrarouge d'un sol, on va prédire des propriétés physico-chimiques. Alors, ce sont des prédictions, donc telles la CEC, les argiles, le pH, le carbone, la matière organique. Le problème de ça, donc, c'est qu'il faut construire un modèle de calibration chimiométrique. Donc, ce qui est assez complexe, donc ça a été fait par Dardenne en Belgique sur la Wallonie. Et apparemment, ils ont réussi à sortir des modèles donc, qui permettent de suivre quelques exploitations agricoles en Wallonie. Par contre, la calibration chimiométrique est assez complexe. Alors, soit il faut travailler à l'échelle de région agricole, soit il faut travailler par des méthodes de calibration locale en chimiométrie, ce qui implique quand même d'avoir une base de données de sol assez importante et au moins de couvrir l'ensemble des types de sols qu'on peut rencontrer dans sa région ou dans son pays. Donc c'est quelque chose bon, qui est en cours d'évaluation, mais qui n'est pas encore tout à fait abouti. Voilà. En conclusion, pour faire évoluer les méthodes agronomiques, il y a trois choses à concilier. Tenir compte des évolutions technologiques, les harmonisations européennes et puis surtout conserver la pertinence des calages agronomiques. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ?
Oui, Dominique Arouet, INRA. C'était juste pour signaler qu'il existe une base SPIR à l'échelle de la France entière, construite sur la base du réseau de mesure de la qualité des sols. Donc il y a 2200 points, a priori représentatifs des sols français. Alors c'est peut-être pas assez 2200, mais bon, on a déjà fait des tests, en particulier sur carbone organique et sur carbone inorganique. Il y a un papier dans European Journal of Soil Science à ce sujet-là. Et cette base, je pense qu'elle est dispo, quoi.
C'est sur les points du RMQS,
c'est ça ? C'est sur les points du RMQS, oui. Ceci dit, les résultats sont... Alors, on a toujours des belles corrélations. Mais la dispersion qu'on a autour, je dirais, de la droite de régression, elle est quand même pas très, très satisfaisante, quoi.
En bas à droite.
Merci, bonjour. Pascal Denorva, INRA Bordeaux. Bon, ça me laisse assez perplexe, cette approche-là, parce qu'on a l'impression que c'est le point de vue des analystes qui veulent avoir une analyse bien propre, quelque chose de fiable et de mesurable et de rapide et pas cher. Ok, c'est un point de vue qui se défend. Le problème qu'il y a, c'est que ça va un peu à l'encontre de l'évolution des connaissances en termes de biologie et de fonctionnement du système sol-plante. C'est-à-dire qu'on sait que la plante, elle se nourrit sur des éléments minéraux solution uniquement, que ça n'a rien à voir avec les milieux analytiques, par exemple du méliche, alors rien du tout. Et que par conséquent, on ne voit pas bien comment, alors que d'un côté, on essaie de progresser sur les modèles de fonctionnement de prélèvement par la plante, d'absorption par la plante, ainsi de suite. On va peut-être avoir une mesure très très propre au niveau du labo, par exemple sur du méliche, mais on va mettre ça en face d'approches strictement statistiques, pour des réponses culture par rapport à des offres du sol, et on ne va pas du tout progresser sur le plan d'explication du système. Donc, ce qu'on va gagner au niveau peut-être précision ou coût au niveau du laboratoire, on va le perdre au niveau de pertinence agronomique. Donc, je ne suis pas certain, ça m'inquiète un petit peu de voir les choses évoluer comme ça, parce que d'une part, des recalages, on va recaler les référentiels agronomiques, on va refaire des recalages statistiques, mais quand on voit les données vraiment, quand on les manipule, je connais un petit peu, la qualité est assez mauvaise. Donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Dans ce sens-là, parce que on ne va pas du tout progresser sur le plan d'amélioration de l'analyse du système sol-plante, voire sur la capacité qu'on a à prévoir des évolutions du système agricole si on change par exemple les pratiques. Un des objectifs, c'est de pouvoir modéliser le fonctionnement du système avec des analyses qui ne représentent rien par rapport à un champ réel. Bon, on ne pourra pas progresser sur la modélisation, donc sur les applications. On va rester sur des relations strictement statistiques. Voilà, c'est un peu frustrant et je pense qu'on ne progresse pas de ce côté-là.
Donc Nicolas va te répondre, mais je suis très content que tu aies posé la question. On espérait bien que quelqu'un la poserait.
Oui, non, mais justement, l'idée c'était ça, c'était de montrer un petit peu ce qui se passe. Donc notamment en Europe, ces méthodes-là, elles sont poussées par les Tchèques, par les Pays-Bas, aussi on en retrouve un petit peu dans le sud de l'Europe. La tendance, c'est vraiment de simplifier. Mais c'est vrai qu'on perd des informations et ça ne va pas dans le sens où on essaye d'expliquer au mieux ce qui peut se passer entre le sol et la plante. Est-ce que c'est jouable ? Est-ce que c'est pas jouable ? Est-ce que les précisions, enfin la gamme de concentration obtenue sera suffisante par rapport à l'utilisation. Je parle en exploitation agricole classique, hein, c'est pas, ça, je n'ai pas la réponse. C'est ce qui se passe actuellement au niveau européen. Quoi. Mais il reste quand même des méthodes tout à fait classiques.
Et même si on passe d'une méthode un peu empirique à une autre, il ne faut pas oublier qu'il faut recaler les référentiels agronomiques et que ça ne se fait pas en deux jours.
Lionel Jordan-May, donc je suis collègue de Pascal. Je pensais que tu aurais enchaîné sur une proposition qui rejoindrait aussi ce que vous avez présenté. Dans l'UMR, on essaie de développer un indicateur simple à mesurer, mais également pertinent sur le plan agronomique. Donc, ça serait la mesure des éléments en solution extraits à l'eau, P soluble à l'eau, le cation, et, alors quelque chose qui n'est pas très facile, mais qui a un sens agronomique, c'est la mesure d'un pouvoir tampon, donc la capacité du sol à réapprovisionner ou à absorber. Et là, du coup, on gagnerait sur les deux tableaux, celui de la rapidité analytique et de la progression du raisonnement agronomique.
Effectivement, en prenant en compte le pouvoir tampon, ça me paraît quelque chose d'important, enfin, le pouvoir de réapprovisionnement du sol. Une simple, enfin, je pense qu'une extraction à l'eau, bon, c'est quand même assez délicat. Déjà, au niveau analytique, c'est délicat, comme je dis. Après, qu'est-ce que ça représente au niveau du sol? C'est quand même une image, enfin, une photo à un instant donné, quoi. Et derrière, ça serait bien d'avoir justement une méthode qui permet de tester un petit peu le taux de réapprovisionnement du sol, quoi. Ça, c'est sûr, ça serait pas mal, ouais.